Ce matin, nous avons fait exprès pour mettre l'offrande. On ne l'a pas oublié si jamais vous aviez hâte de donner votre offrande. Et on va vous faire patienter un tout petit peu. On va mettre ça à la fin. Parce que vous avez reçu dans vos bulletins un petit papier comme ça qui est intitulé, vous pouvez le reconnaître assez facilement. Ça dit « Je prie, je me lève et je parle ». Et on aimerait vous lancer l'invitation ce matin de vous engager dans un beau projet qu'on va vous présenter. Et vous allez voir, on va revenir avec ça à la fin. Donc, sortez votre crayon à la fin, vous en aurez besoin. On va revenir de toute façon avec ça à la fin, quand ce sera le temps de remettre nos offrandes et d'adorer Dieu par nos offrandes. Faut jamais oublier que l'offrande, c'est un temps d'adoration à Dieu. Et en même temps, ce matin, nous voulons vous lancer ce beau défi-là. Eh bien, la première fois que j'ai entendu le mot « grâce », c'est vraiment dans un contexte de chrétien. D'ailleurs, c'est la première fois que j'ai entendu vraiment ce mot-là. Quoi qu'il faisait partie de mon vocabulaire, on connaît le mot grâce. On peut dire que quelqu'un peut danser avec grâce. J'ai vu un beau couple danser avec grâce l'autre jour, Anna et Herman, au mariage d'Éric. Ils dansent tellement bien. Beau couple. C'est beau de voir des gens qui savent bien danser. C'est beau de voir ça. Alors, j'avais ce mot-là dans mon vocabulaire, mais ce mot a vraiment changé, a pris un sens tout à fait différent lorsque j'ai entendu ce mot-là pour la première fois, une des premières fois, par un de mes clients. C'est un de mes clients qui m'a parlé de la grâce. Vous savez, on ne connaît pas vraiment ce que ça veut dire, la grâce, avant de vraiment parler de Jésus-Christ. En fait, je peux même vous le prouver, si vous faites une recherche Internet sur Google du mot « grâce », la première place qu'on vous emmène, c'est à une compagnie spécialisée en produits chimiques. Grâce, une belle compagnie en produits chimiques. D'ailleurs, on va vous emmener à un autre site qui dit ceci, les experts d'ordinateur, vous devez connaître ça, vous autres. Google nous envoie sur un autre site qui dit « Grâce fonctionne presque sur toutes les versions Unix ». Alors, c'est l'endroit qu'on va vous envoyer si on fait la recherche sur le mot « grâce ». Vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire, le mot « grâce », on va vous envoyer sur ces deux compagnies-là. Évidemment, il y a d'autres sites qu'on va vous envoyer. Il y a des textes bibliques et tout ça, et certainement, ils ont inséré ça dans le moteur de recherche de Google. Mais le premier site où on va vous envoyer, c'est vraiment une compagnie spécialisée en produits chimiques. Mais j'ai vraiment tombé sur une très belle définition. Je ne sais pas si tu avais déjà vu ça, Yannick, je sais que tu travailles beaucoup avec Antidote. Antidote donne vraiment, c'est un logiciel qu'on met dans l'ordinateur qui nous aide à corriger les défauts. Puis il y a des dictionnaires intégrés, vraiment un très bel outil. Et l'Antidote donne une super de belle définition. J'étais très impressionné à la définition qu'Antidote a donnée pour la grâce. Regardez bien ce que ça dit. Aide surnaturelle que Dieu accorde en vue du salut. Ouais. Pas mal impressionnant. Les autres ont vraiment mis le doigt dessus. Aide surnaturelle que Dieu accorde en vue du salut. Et la définition poursuit, continue. Ça dit, aide surnaturelle que Dieu accorde en vue du salut. La grâce de Dieu. Dieu accorde, donne, répand sa grâce. Être touché par la grâce. Être en état de grâce. Ah, mon Dieu, j'ai tellement bien aimé ça. Et on peut voir plusieurs définitions de ce que c'est que la grâce. J'en ai lu, mon ami, tellement au fil des années, avec toutes sortes de livres et de commentateurs et tout ça. Tu peux en voir plusieurs. Mais récemment, je suis tombé sur une très belle définition de la grâce. Je trouve ça tellement simple. C'est juste quatre mots et ça dit ce que ça dit. Vous allez la voir, c'est quoi? J'ai tellement bien aimé ça. La grâce signifie que Dieu est pour nous. Vous allez voir, c'est bon. Dieu est pour nous. En d'autres mots, Dieu n'est pas juste en nous, Dieu n'est pas juste avec nous, mais Dieu est pour nous. Nous avons arrêté d'être contre Dieu, par nos péchés, et Dieu a certainement bien des raisons d'être contre nous, mais à cause de sa grâce, à cause de Jésus-Christ et l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, Dieu est pour nous. C'est grâce à Dieu. Je comprends que c'est grâce à Dieu. Parce qu'il aurait bien des raisons d'être contre nous. C'est par la grâce de Dieu que Dieu nous sauve, que Dieu nous soutient, que Dieu nous guérit, que Dieu nous libère. Dieu est pour nous. Il nous pardonne. Il enlève nos péchés, nous emmène dans sa famille, nous donne une nouvelle famille. Toutes ces belles choses-là, on les obtient, Dieu nous les donne, et c'est par sa grâce. J'ai entendu d'autres définitions comme la grâce, c'est une faveur non méritée. On n'a pas mérité ces choses-là, toutes ces belles bénédictions-là, mais Dieu nous les a données. Mais voici, Dieu ne veut surtout pas que l'on garde cette grâce que pour nous-mêmes. C'est ça la chose. Si vous avez reçu Jésus-Christ, vous avez reçu cette grâce. Mais Dieu ne veut pas qu'on la garde que pour nous-mêmes. Si nous avons été l'objet de la grâce de Dieu, si on a reçu les bénédictions de Dieu, Dieu veut en retour que l'on puisse offrir cette grâce aux autres. Si vous avez été béni par le Seigneur, Dieu veut que vous puissiez bénir les autres. Si Dieu a pris soin de vous, Dieu aimerait que vous puissiez prendre soin des autres. Si Dieu vous a pardonné, Dieu aimerait que vous puissiez offrir ce pardon aux autres. Voyez? Ce que Dieu vous a donné, il aimerait que vous puissiez l'offrir aux autres. Et pourquoi offrir cette grâce aux autres? Eh bien, laissez-moi répondre à cette question en regardant dans un passage cette semaine où l'on voit ça, justement. Tournez dans Matthieu avec moi. On va reprendre les derniers versets que Yannick nous a très bien expliqués la semaine dernière, parce que ça va tellement avec le reste du chapitre 10. Donc, tournez avec moi dans Matthieu 9, et on prend la lecture au verset 36. Matthieu 9, verset 36, et je vais lire du verset 36 jusqu'au verset 38. Alors, vous êtes avec moi. « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. » Alors, voici Jésus qui regarde la foule devant lui. « Et en regardant la foule, il est ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. » Dieu veut que l'on offre cette grâce aux autres parce que les gens sont perdus sans Jésus-Christ. Voyez-vous, lorsque Jésus regarde la foule, il la compare, la foule, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Des brebis qui sont perdues. C'est le berger qui conduit les brebis. Les brebis suivent le berger. Mais voilà, cette foule est languissante, elle est perdue, elle est comme des brebis qui sont sans berger. Et Jésus voit la foule. Et il sait que cette foule est perdue sans Christ. Jésus est certainement le bon berger, on voit cela souvent dans le Nouveau Testament. Et voici cette foule qui ne connaît pas Jésus-Christ. Jésus qui souffre, il est ému de compassion. Jésus souffre de voir cette foule qui la compare comme des brebis qui sont sans berger. Il la compare ici aussi à un champ qui est prêt à être moissonné. Et Jésus pouvait voir la multitude qui venait à lui et la comparer à un champ, la comparer à des brebis. Mais certainement, ce qui revient, c'est que cette foule a un très grand besoin. Elle a besoin du bon berger. Elle a besoin de Jésus-Christ. Et Jésus est ce berger. Et Jésus, lorsqu'il voit la foule, il est ému de compassion. Il ressent la peine. Il ressent la souffrance, la douleur de la foule. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il emploie deux mots très forts ici. La foule est languissante et elle est abattue. Littéralement, qui veut dire écrasée à terre et sans défense. Lorsque Jésus-Christ voit cette foule, il voit la souffrance de cette foule. Certains commentateurs voient ici, en comparant cette foule à un champ qui est prêt à être moissonné, il y a des gens qui voient cette moisson comme le jugement qui s'en vient. D'autres ne partagent pas cette idée. Et honnêtement, je pense que ici, à cause du contexte, à cause du vocabulaire, parler d'une foule qui est languissante, qui est abattue, qui est écrasée, à cause de cette douleur, Certainement que ça revient à la même chose au bout de ligne, parce que les deux, cette deux façons de voir le passage nous conduit quand même à Jésus-Christ, et certainement la foule a besoin du salut pour les épargner du jugement qui vient, si la moisson veut dire cela. Mais je pense que Jésus voit, c'est dans le contexte ici, même s'il va le dire ailleurs, qu'il y a un jugement qui s'en vient certainement pour ceux qui sont sans Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas le bon berger comme leur sauveur personnel, certainement se dirigent directement vers le jugement dernier et l'enfer. Mais je pense qu'ici, dans l'immédiat, je pense que Jésus est plutôt touché par cette douleur et cette souffrance de la foule qui est sans berger, qui ne sait pas où se tourner, ne sait pas où aller. Elle a besoin d'être conduite, d'être guidée, et Jésus est ce salut, est ce guide, est ce chemin. Jésus l'a dit dans un autre passage, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. » Jésus sait que la foule a un grand besoin du bon berger. Vous savez, il y a des gens qui accusent aujourd'hui Dieu de ne pas être sensible aux souffrances du monde. Avez-vous déjà entendu ça, hein? Qu'est-ce que Dieu fait? Moi, c'est Dieu n'est pas touché à tout le malheur du monde. Mais certainement, ce passage montre tout à fait le contraire. Alors que Jésus est tout à fait ému de compassion, il est brisé dans ses tripes, dans ses émotions, complètement à l'envers de voir la douleur et la souffrance des gens qui sont devant lui, la souffrance des gens qui sont dans la foule. Certainement, Dieu est touché par la souffrance des gens. Vous savez que vous êtes ici ce matin et peut-être que vous êtes dans une saison de votre vie où vous passez par une période très difficile. Bien, ne croyez jamais, ne laissez jamais cette pensée s'insérer dans votre esprit que Dieu est insensible et se fout de ce que vous êtes en train de vivre. Dieu est très touché par le mal que l'on peut connaître et que l'on peut éprouver. Dieu est le premier ému de compassion de voir notre douleur puis nos souffrances. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui vous êtes dans une saison plus joyeuse en ce moment. Il y a des gens que là, vous êtes dans une saison où ça va super bien, ça roule, c'est le fun, et on se réjouit avec vous autres. Je pense à Herman et Anna, hein, qui vont se marier. Elles autres, la vie est belle, hein? Amen! Je te dis qu'ils sont heureux. C'est le fun de les voir, beau couple, en forme, en santé, puis ça roule l'affaire, c'est le fun. Il y en a d'autres, par contre, vont passer d'autres saisons en ce moment. Vous êtes dans d'autres saisons. Vous n'êtes pas là en ce moment. Peut-être qu'il y a des temps de douleur et vous éprouvez un temps très difficile. Je pense à cette semaine, j'ai reçu un téléphone d'un pasteur qui ne savait pas trop quoi faire, m'a demandé des conseils. Il y a une famille dans son église. Le mari n'est pas chrétien, elle est chrétienne. Puis il dit, Normand, qu'est-ce que je conseille? Qu'est-ce que je dis à ça? C'est une fille, leur fille de 16 ans vient de commettre une tentative, vient de faire une tentative de suicide. Et certainement pour cette famille, ils sont dans une grande douleur, ils passent à travers cette saison tellement difficile. Lorsqu'un de tes enfants passe par ces douleurs, ces moments difficiles, quelle épreuve pour les parents aussi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Tu te sens à l'envers comme parent. Tu passes à travers des sentiments d'échec, tu te dis... Est-ce que c'est nous autres, c'est notre faute, et t'es chambardé. Il y a des gens ici ce matin, vous passez à travers des temps difficiles, vous vivez toutes sortes de choses, toutes sortes de douleurs. Des douleurs même qu'on peut-être même pas s'attendre. J'ai lu un article cette semaine dans une revue intitulée « Prêcher sur l'homosexualité, prendre un chemin moins fréquenté », où l'auteur raconte ceci. « Des parents m'ont dit... Si notre fils avait des problèmes de drogue ou d'alcool, des chrétiens de l'Église prieraient pour nous. S'il était en prison, les chrétiens nous entoureraient et nous supporteraient. Mais quand ton fils lutte avec l'homosexualité, tu ne peux pas te permettre d'en parler, tu gardes le silence. Il y a peut-être des gens, même ici, peut-être même des gens, là, vous êtes dans la salle et secrètement et silencieusement, vous luttez. Vous êtes en train de mener un combat parce que vous êtes attiré, peut-être, par le même sexe que vous. Et vous êtes en train de lutter ça silencieusement et secrètement, et jamais vous n'oseriez en parler de peur d'être jugé puis condamné ici dans l'Assemblée. Mais vous luttez. Vous luttez. Et moi, je veux vous féliciter que vous luttez un combat très difficile. On ne réalise pas ça. L'auteur ajoute, comme parent, ils souffrent en souffrance parce qu'ils ont entendu les blagues, ils ont vu les froncements de sourcils. Une mère de fils homosexuel écrit ceci. « Pourquoi je me sens incapable d'en parler à mon Église? » Eh bien, c'est parce que je me sens assez incapable, je suis incapable d'entendre les jugements, les théories et les analyses. Je me sens assez coupable, inadéquate comme parent, en plus de me sentir comme si j'avais échoué comme parent, sans ajouter les remarques déplaisantes de chrétiens. L'article poursuit en nous rappelant qu'il y a fort probablement des gens qui luttent, surtout dans une église aussi nombreuse que la nôtre. C'est certain qu'il y a des gens dans l'Assemblée, en ce moment même, où vous luttez silencieusement, vous n'osez pas briser le silence parce que vous avez peur d'être critiqué ou jugé au sein de l'Assemblée. Et vous êtes ici, et vous luttez. Bien, je veux vous féliciter pour votre lutte. Je veux certainement prier pour vous, et on va prier pour vous, et on veut vous féliciter du combat que vous êtes en train de mener pour remporter la victoire. Et la victoire est possible. La victoire n'est pas facilement gagnée, mais c'est possible. Je connais des homosexuels qui ont eu la victoire, et aujourd'hui sont dans l'œuvre même. Ils aident les autres. Et c'est possible, il y a même un ministère qui s'appelle Exodus International qui se spécialise, ce sont des chrétiens évangéliques, et qui aident les gens qui luttent avec ça. Et c'est possible d'avoir la victoire. Et j'aimerais vous encourager. Sachez que vous n'êtes pas seul dans votre combat. Jésus voit votre souffrance. Jésus est sensible à votre souffrance. Il est ému de compassion parce qu'il sait que la foule est abattue, elle est languissante, et surtout parce qu'elle est comme des brebis qui n'ont pas de berger. Jésus sait, il est ému de compassion parce qu'il sait que ces gens sont perdus tant et aussi longtemps qu'ils ne trouveront pas le bon berger. Mais Jésus connaît la solution. On connaît la solution. Le bon berger est là, il est tout prêt. Il est là, il est disponible. On a juste à leur dire, Jésus est la solution, il est le bon berger. Et c'est de cette expérience, de cette compassion, cette vision du monde et leurs besoins du bon berger que Jésus appelle les disciples à prier. Jésus regarde la foule, il est ému de compassion, et c'est par cette compassion, ce besoin de la foule, qu'ils ont besoin de connaître Jésus-Christ, besoin de connaître le bon berger, que Jésus se tourne vers les disciples et demande aux disciples de prier pour envoyer des ouvriers. Donc, les ouvriers, qu'est-ce qu'ils devront faire? Ils devront aller présenter Jésus-Christ comme étant le bon berger à la foule. Voyez-vous? Et ça commence à la prière. Parce que c'est par la prière qu'on commence à voir le monde tel que Dieu le voit. Voyez-vous? On a besoin de prière pour avoir la compassion de la foule. On a besoin de prière pour avoir la compassion des âmes, pour que Dieu puisse instaurer dans notre cœur cette compassion de voir la foule qui est sans berger. Sans ça, on vit comme si ça ne nous dérangeait pas, on s'en fout, on vit comme si c'est pas grave, mais la prière nous ramène à notre cœur. Cette compassion nous permet de voir le monde comme Dieu la voit. C'est pour ça que tu as besoin de prière. C'est pour ça que Jésus nous incite à prier pour la foule, prier pour les gens de Longueuil, prier pour toute la région ici, parce que c'est en priant que Dieu va nous donner la compassion des âmes. Et Jésus sait, il est clair que Jésus ne pourra pas suffire à l'ouvrage ici. Il y a plus de 200 villes dans la région, plus de 2 millions de personnes. Et certainement, on sent l'empressement du Seigneur d'aller communiquer l'Évangile à ses foules. Il sait que son temps est court, il ne reste pas grand temps. Alors, il veut que les disciples commencent à prier pour ces gens-là, que Dieu suscite des gens. Alors, Jésus se tourne vers les disciples, leur demande de prier que Dieu envoie des ouvriers. C'est Dieu qui envoie les ouvriers. C'est Dieu qui donne cette vision d'aller proclamer l'Évangile. C'est Dieu qui nous donne cette compassion. C'est Dieu qui nous rend sensibles et avoir un cœur tendre à l'endroit de ceux qui périssent, qui sont perdus, qui sont sans berger. Alors Jésus se tourne vers ses disciples et demande aux disciples de prier afin que Dieu envoie des ouvriers. Alors, le chapitre 9 ferme sur une exhortation à la prière, car Jésus sait que les gens ont besoin de la grâce de Dieu, car ils sont perdus sans berger. Alors, pourquoi Dieu veut-il que l'on offre aux autres la grâce qu'on a reçue? Premièrement, parce que les gens sont perdus sans Christ. Les gens sont perdus sans ce berger. Mais deuxièmement, Dieu veut que l'on offre cette grâce aux autres parce que nous sommes ses ambassadeurs. On est les représentants du Seigneur. Regardez bien ce qui se passe au chapitre 10, verset 1. « Puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie, toute infirmité. Voici le nom des 12 apôtres, le premier Simon, appelé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon, le cananite, et Judas, l'Iscariot, celui qui livra Jésus. » Le chapitre 10 s'ouvre alors que Jésus parle aux mêmes personnes auxquelles il a demandé de prier. Avez-vous remarqué ça? Jésus demande aux disciples, là, vous avez besoin de prier que Dieu envoie les ouvriers. Et tout après, il dit, bon, bien, les gars, vous êtes les ouvriers qu'on va envoyer, que Dieu va envoyer. C'est vraiment drôle, hein? Ils sont la solution, ils sont l'exaucement de leur prière. Ah oui, j'ai remarqué ça, des fois, tu pries, tu demandes des choses au Seigneur, puis à quelque part, le Seigneur te dit, il n'y a pas de problème, mon ami, je vais te le donner, mais c'est toi qui vas le faire. Est-ce que ça t'arrive des fois, ça? Ah, ça arrive, ça. Et c'est vraiment intéressant. Dieu leur demande de prier, parce qu'ils ont besoin de prier. Ils ont besoin de voir la foule comme Dieu les voit. C'est pas juste de les envoyer. Il faut que tu aies cette compassion-là. Il faut que tu aimes ces gens-là. Il faut aimer la foule, les avoir à cœur. Et Dieu le sait, prier. Puis après ça, il dit, bon, OK, maintenant, levez-vous. Levez-vous, puis allez parler. Hein? Je prie, je me lève et je parle. C'est ça qu'il va leur dire. Au chapitre 10, c'est ça qu'on va retrouver ici. C'est comme si Jésus nous disait, priez pour que Dieu envoie des gens partager l'Évangile à Longueuil. Bon, après, bon, OK, t'as fini de prier, là, OK, lève-toi, puis va parler aux gens de Longueuil. Alors, tu te demandes, mais pourquoi prier? Bien, c'est parce que tu as besoin de prière pour que Dieu touche ton cœur, pour que Dieu te donne, t'inspire à voir le monde comme il la voit. Ah, la compassion des âmes, ça vient par la prière. Puis après ça, le Saint-Esprit qui met en toi cette compassion, ce désir de voir les gens venir à Christ, d'aller les voir et leur partager le bon berger. Moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, tu sais, j'ai été élevé à Duvernay. Vous autres, les gens de la Rive-Sud, là, j'ai une chose que je découvre, moi, c'est que les gens de la Rive-Sud et les gens de la Rive-Nord, on ne se parle pas beaucoup entre nous autres. Hein. C'est comme s'il y a comme une frontière qui s'appelle Montréal entre les deux. Là. C'est ta Rive-Nord, Rive-Sud. Avez-vous déjà remarqué ça? Oui, c'est vrai. Moi, je le remarque, là. Moi, la Longueuil, je pense que je suis allé une fois dans ma vie avant de venir ici. Je ne suis pas venu souvent. Je pense que je suis allé à cause de la ronde. À un moment donné, elle a fait un détour. Hein. Longueuil, tu sais, un détour. Longueuil, c'était un détour pour moi quand j'habitais à Rive-Nord. Là, à un moment donné, je m'en vais, moi, je demeurais à Duvernay. J'étais élevé à Duvernay, puis tout ça, vraiment, dans le secteur. Maintenant, ils appellent ça Laval-Est, toute la région Est de Laval. Et puis, à partir du boulevard de Laurentides, tu as Pont-Viau, Duvernay, Saint-Vincent-de-Paul, Duvernay-Est, puis Saint-François. Toute cette région-là, c'est Laval-Est, d'accord? Vimont, tout ça, tout le côté du boulevard de Laurentides. Alors, moi, il y a quelques années, moi, j'allais à l'église de Hansic dans ce temps-là, puis tout ça, puis j'ai commencé à prier. Je demeurais là-bas. Je demeurais justement à Saint-Vincent-de-Paul. Donc, moi, j'étais élevé à Saint-Vincent-de-Paul, Duvernay, puis tout ça. C'est là que je suis allé à l'école. Là, moi, je restais là, mais j'allais à l'église de Hansic. Donc, c'est évident. Moi, le matin, je me levais, puis j'allais prier dans un petit parc, juste sur le bord du boulevard Lévesque, juste à côté de l'eau. C'est super beau. Et là, j'allais prier, là, tous les matins, 6h et quelques. J'allais prier là-bas, puis tu sais, dans mes prières, à un moment donné, c'est évident, j'étais élevé là, à Duvernay. Alors, c'est évident, à un moment donné, je demandais au Seigneur, Seigneur, faudrait que tu commences une église dans ce coin-là, envoie un ouvrier. Il faudrait vraiment là, que tu partes une église à Duvernay, toute la région de la Vallée, ça n'a pas de bon sens, il y a besoin d'une bonne église évangélique. Je savais qu'il y avait une église à Terrebonne-Mascouche, je savais qu'il y avait une église à Chamédé. Là, j'ai dit, Seigneur, faut vraiment, ça prend une bonne église évangélique baptiste, là, ici, dans ce coin-ci. Là. Puis là, j'ai commencé à prier là-dessus. Ça faisait à peu près un an que je priais régulièrement, pas tous les jours, mais de temps en temps, je priais pour Duvernay, puis tout ça. T'sais. Puis à un moment donné, après un an, Seigneur a répondu à ma prière. Ah, il dit, Normand, il dit, je m'en viens de voir aujourd'hui, là, il dit, je vais répondre à ta prière, puis ça fait un an que tu pries là-dessus. Excellent, j'ai vraiment à cœur, effectivement, à la Vallée. Alors, tu as prié, maintenant tu vas te lever, tu vas commencer à parler, tu vas commencer une église à la Vallée. J'ai dit, moi? Non, mais moi, je vais avoir une sec. Toi, bonhomme. Alors, on a commencé une église à la Vallée. en le fond, sans le savoir, moi je priais que Dieu envoie quelqu'un commencer une église à Laval-Est, sans réaliser que pendant un an, Dieu est en train de préparer mon cœur pour que je commence une église à Laval-Est. Alors, j'ai été l'exaucement de ma propre prière. Et c'est des fois, on exauce, on peut, parfois, pas tout le temps, mais parfois, on peut exaucer notre propre prière. Et en ce cas, certainement dans ce cas-ci, Dieu a fait des choses merveilleuses. En dépit de moi, c'est super beau ce qui s'est passé là. À notre grande surprise, Dieu nous a permis d'acheter un bâtiment là-bas et des âmes sont venues au Seigneur. Des familles complètes sont venues au Seigneur, famille Smith, d'autres. Je pense à Roger qui est venu ici l'autre jour, Roger qui a accepté le Seigneur, un déjeuner d'espoir qu'on a eu à Laval-Est. Et mon ami, Dieu a fait des belles choses et c'était nécessaire d'avoir une église à Laval-Est. Dieu a sauvé des âmes qui demeuraient à Laval-Est. À Saint-Vincent-de-Paul, tout ça, peut-être que j'aurais jamais rencontré, mais parce qu'on avait une église là, on a répandu la parole dans ce coin-là. Des gens sont venus au Seigneur. D'ailleurs, la personne qui est aujourd'hui le pasteur de là-bas était une personne, ça faisait 5 ans qu'elle n'est plus à l'église, lui et sa femme. 5 ans. Et aujourd'hui, c'est rendu le pasteur de l'église de Laval-Est, il a pris ma place là-bas. Et ça va très bien, Dieu bénit. Ils ont rénové le bâtiment récemment, d'autres personnes sont ajoutées à l'église, tout ça. Dieu bénit. Et j'étais loin de réaliser au départ, lorsque je commençais à prier, que Dieu était tranquillement en train d'exaucer la prière par moi. Mais j'avais besoin de prière avant. Dieu avait besoin de corriger des affaires dans ma vie, dans mon cœur, que je vois la région de Laval-Est comme Dieu la voyait. Parce qu'il était pour me préparer pour les temps difficiles qui allaient venir dans les prochaines années là-bas dans la région de Laval-Est. Et il faut que Dieu te donne cette vision-là. Et vois-tu, c'est exactement ce qui se passe ici. Dieu veut pas qu'on garde cette grâce qui nous a été faite de connaître Jésus-Christ, de connaître le bon berger, d'avoir cette relation avec Dieu et tous les bienfaits, les bénédictions que ça comporte, le pardon de nos fautes, d'avoir cette relation avec Dieu à une place assurée pour l'éternité dans le ciel et les récompenses qui s'en viennent, ce lieu tout à fait extraordinaire qui s'en vient pour l'éternité. Il veut pas qu'on garde ça pour nous autres, il veut qu'on le donne aux autres. Premièrement, parce que les gens sont sans berger, les gens sont perdus sans lui. Puis deuxièmement, il veut pas qu'on garde ça pour nous autres, il veut qu'on le donne aux autres. Parce que non seulement les gens ont besoin du salut, mais nous sommes les ambassadeurs. Dieu a choisi de travailler avec nous autres. Dieu a choisi de répandre la parole de Dieu à travers nous autres. Nous sommes ses représentants, nous sommes ses ambassadeurs. Si nous autres, si nous, on ne parle pas de Jésus-Christ, qui va en parler? Ça arrête là, là. Si tous les chrétiens de Longueuil arrêtent de parler de Jésus-Christ, comment les gens de Longueuil vont connaître, vont entendre parler de Jésus-Christ? Il faut que des chrétiens parlent. C'est le seul moyen. Il y a des gens qui vous ont communiqué cette grâce qu'ils avaient reçue pour que tu connaisses Jésus-Christ dans ta vie. C'est que quelqu'un l'a fait. Vois-tu? Eh bien, on a besoin de cette compassion-là. Premièrement, pour avoir à cœur de le faire. Et deuxièmement, réaliser que nous sommes les ambassadeurs. Mais là, vous allez dire, moi, je ne suis pas prêt pour ça. Moi, parler de Jésus-Christ? Aïe, c'est difficile de parler de Jésus-Christ. Yannick l'a très bien dit tantôt. Hein? Une des choses les plus difficiles comme chrétien, c'est d'aller partager l'Évangile. Vous trouvez ça pas facile, hein? Des fois, ça va très bien. On dirait que Dieu a tout préparé, le cœur est proche, puis tout ça. Là, tout est prêt, puis ça coule comme dans du beurre. D'autres fois, c'est tough, hein? Soyons honnêtes. Puis là, peut-être que tu te sens que tu n'es pas prêt, tu dis, écoute, j'ai pas toutes les réponses, je suis pas un théologien, moi, je suis pas... Hey, j'ai pas toutes les réponses, j'ai tellement de questions encore, je me pose des questions, tout ça, là. Ben regardez bien la liste des 12. Matthieu 10, verset 5, « Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné ses instructions suivantes. » Maintenant, je veux dire ceci, je vais mettre une bémol ici, c'est absolument nécessaire que nous recevions une formation. On le voit ici. Tels sont les 12, Jésus les envoie après leur avoir donné les instructions suivantes. Et croyez-moi, les apôtres avaient besoin d'instructions. Ces gars-là n'ont pas de Nouveau Testament, là. C'est tout à fait nouveau. Ils découvrent. Et pouvez-vous réaliser que ces disciples, et c'est absolument nécessaire que d'être formés pour qu'on apprenne comment être des disciples. Et c'est là que ça se passe. Et Jésus passait son temps avec les disciples pour les former. Il formait les disciples. Il était un modèle comme aussi c'était quoi être un enfant de Dieu. On a besoin d'instruction. Pensez-y, les disciples passaient 24 heures par jour avec Jésus-Christ. Mettez ça, juste 3 ans, calculez ça, 24 heures par jour avec votre professeur de séminaire théologique à côté de vous, là. Assis à côté de vous, là, tu sais. 24 heures sur 24. Enlevez 8 heures de sommeil, ça fait un total de formation théologique et biblique de 17 520 heures de cours. Est-ce qu'il avait besoin d'instruction? C'est l'équivalent, quand on a calculé tout ça, c'est l'équivalent de 12 doctorats. Est-ce que les disciples ont reçu de la formation? Ils en ont reçu. Alors, c'est important que d'être formé spirituellement. Mais ce qui m'impressionne, c'est que Jésus n'a pas attendu qu'ils aient leurs 12 doctorats avant de les envoyer. Ils les envoient tout de suite. Et croyez-moi, on le voit après leur mission, ils ne comprenaient pas grand-chose aux choses spirituelles. À ce stade-là de leur vie, je peux vous garantir une chose, il n'y a pas grand-chose qu'ils comprenaient, parce que Jésus n'arrête pas de leur dire, « Mon Dieu, vous ne comprenez pas. » Constamment, Jésus n'arrête pas de leur dire, il dit, « Vous ne comprenez pas. » Ça n'a pas bon sens. Ils ne comprenaient pas les paraboles, ils disaient, « Hein? » Et ils passaient 24 heures par jour avec Jésus, puis ils ne comprenaient pas, même à corps, même des années. Là, ils sont là, « Hein? » Jésus, qu'est-ce que tu étais en train de... Qu'est-ce que tu as dit tantôt? Là? Non, mais il fallait surtout pas poser la question devant tout le monde. Tu poses pas la question devant tout le monde, tu poses secrètement, puis tout ça, à côté, là, puis si tu veux passer comme... qu'est-ce que ça veut dire? Constamment! Alors, non seulement qu'il manquait de connaissances, mais il ne comprenait pas les paraboles, il ne comprenait pas la croix. Même Jésus, même Pierre a essayé d'arrêter Jésus d'accomplir sa mission pour laquelle il était venu. Plus de 300 prophéties dans l'Ancien Testament qui indiquaient, pointaient vers Christ, et plusieurs d'entre eux, dont Ésaïe 53, pointaient vers la croix. Pierre a essayé de l'arrêter, puis dit, non, tu t'en iras pas à Jérusalem. Pantoute, tu t'en vas pas là. Jésus est obligé de le regarder, puis lui dire, après des années de formation, puis de cours, puis d'instruction, Jésus le regarde, puis dit, arrête, arrière de moi, Satan. Pierre a presque été une pierre d'achoppement pour Jésus-Christ. Pourtant, c'est eux autres. Et non seulement qu'ils manquaient de connaissances, ils manquaient de foi. Constamment, Jésus, plus d'une fois, il leur dit, « Bon sang, combien de temps ça va prendre? Vous avez vu tous les miracles que j'ai faits et vous doutez encore? J'ai guéri tous les malades dans la ville de telle ville. T'en souviens-tu? Oui, oui. Puis tu as encore des doutes. Il y avait encore des doutes. Est-ce que c'est comme ça, des fois, d'avoir des doutes? Dieu fait une grande bénédiction, te donne une bénédiction, répond à une de tes prières, c'est extraordinaire. Deux semaines après, tu commences à douter sur d'autres choses. Ça t'arrive-tu? Bien, les disciples étaient comme ça. Ils doutaient, manquaient de foi. Ils ne croyaient pas à la résurrection. Écoutez, la résurrection, c'est à la fin, là. Ils ont passé là, les 12 000 heures de formation théologique. Là, ils connaissent, là. Ils savent, là. Ils ont plusieurs doctorats à ce point-ci, théologie, là. Tu sais, vers la fin, là. Là, il y a une femme qui s'en va les voir et dit, « Hey, Jésus est ressuscité! » Exactement comme il avait dit. Jésus l'avait dit! Et les disciples disent, « Voyons donc. Voyons donc, il est ressuscité. Il n'est pas ressuscité, Jésus. » Ils ne croyaient pas. Ils disent, « Voyons donc. » Ils doutaient tellement que ça, Jésus n'a pas été content, par exemple. Non, ça, Jésus, là, il dit, ça, il en a gardé pas mal sous silence, mais ça, il était pas capable, il dit. Non, là, il les a même réprimandés. Il les a même réprimandés pas mal. On lit le Marc 16. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'ils avaient vus ressusciter. Mon ami. Puis qu'en est-il de leur caractère? Non seulement qu'ils doutaient, non seulement qu'ils manquaient de connaissances, qu'ils comprenaient pas grand-chose, je suppose, spirituel. Mais qu'en est-il de leur caractère? Ben, regardez bien les suivants dans la liste. Vous avez les suivants dans la liste? Jacques et Jean? Juste vous dire, si jamais vous ne les connaissez pas, laissez-moi vous les présenter ce matin. Ils avaient un titre, ces gars-là. Les deux gars, pas juste un. Jean et Jacques, les deux, ils avaient un titre. On les appelait « Fils du tonnerre ». Imagine-toi avoir un surnom « Fils du tonnerre ». C'est certainement pas à cause de ta douceur. Hein? Est-ce qu'on s'entend qu'il devait avoir un caractère impulsif, ces deux gars-là? Hey, il t'avait un caractère, là. Impulsif, agressif. Est-ce que Dieu peut travailler avec des gens agressifs et impulsifs? Hey, c'est bon. Dieu travaille avec des gars de même. On est correct, Yannick? Je pense qu'on va passer à travers. Hey, juste vous montrer le genre de caractère qu'ils ont. À un moment donné, Jésus a besoin d'une chambre d'hôtel pour une nuit avec ses disciples. Fait que là, il s'en va à Jérusalem, t'es en chemin, t'es en voyage, t'en vas travailler à Jérusalem. Puis alors, à un moment donné, il demande à un de ses disciples, il dit, bon, écoute, là, tu vas t'en aller en telle ville, tu vas louer une chambre d'hôtel pour une nuit, OK? D'abord, une grande chambre, peut-être une villa, je ne sais pas trop, en tout cas, plusieurs chambres, sont plusieurs disciples. Alors, le disciple s'en va, puis ça donnait que la ville où il s'en allait, c'était une ville qui avait pas mal de Samaritains. Alors, c'était les Samaritains qui étaient pas mal propriétaires de choses là-bas, probablement des hôtels, tout ça. Il y avait un Holiday Inn, ça donnait, c'était propriétaire de Samaritains. Les Samaritains, ils disent, ils n'en ont pas question, ils en allaient à Jérusalem. Ils disent, pensez-vous, moi, vous aider à aller voir les Juifs? On est Samaritains, ils disent, on haït les Juifs, on ne veut rien savoir des Juifs. Vous en êtes, toi puis Jésus, vous en allez voir les Juifs? Il n'en est pas question. Tiens, bim, tu es dans no vacancy, fini, on ne vous passe pas de chambre d'hôtel, on ne veut rien savoir. On ne vous encouragera pas à aller voir des Juifs. Alors, le disciple revient, ça va dire ça à Jésus. Les disciples sont là, ils entendent ça. De Jacques et Jean. Hein? Quoi? Attends un peu, on règle les problèmes. Dieu, hey, Jésus, veux-tu qu'on demande à Dieu, veux-tu qu'on fasse descendre la foudre, le feu sur l'autel en Éden? On les brûle toutes. Jésus le regarde. Les gars, vous n'avez pas compris, là? Là, il y a quelque chose qui ne marche pas, les gars, là. Ça ne marche pas comme ça, là. Non, non, je ne suis pas venu pour perdre les gens. Je suis venu pour les sauver. Ça va? Hein, les gars? Sauver? Hey, imagine-toi, tu laisses sa gang-là aller faire du porte-en-porte. C'est dangereux. Non, peux-tu juste imaginer? Tu leur donnes toute l'autorité, tous les pouvoirs, chasser des démons, tout ça. Tu donnes le pouvoir de faire descendre le ciel, puis tu t'en vas. Allez, faire du porte-en-porte à Longueuil. Je te dis, moins 350 000, ça va descendre à 200. Mais ce qui est merveilleux, puis c'est ça qui m'encourage. Dieu est parfait, mais Dieu n'est pas perfectionniste. C'est une grosse différence. Un perfectionniste, c'est quelqu'un qui n'est jamais satisfait parce qu'il n'est jamais assez bon. Dieu ne travaille pas de même. Dieu est plutôt comme le parent qui voit le petit bout de chou réussir à se lever. Commencer à faire des pas. Et il se réjouit de ces quelques pas qu'il a commencé à faire, et non ce qui lui manque. Si tu vois ton enfant commencer à se lever, tu dis pas, franchement, regardez là qu'est-ce qu'il y a de l'air. Il peut même pas marcher, il peut même pas courir. J'aimerais ça aller courir dehors, faire du jogging avec mon fils de 2 ans. Même pas capable de faire ça. Tu dis jamais ça, hein? Tu parles pas de même. Un parent ne parle pas comme ça. Un parent se réjouit de ce que son enfant est capable tout d'un coup de se lever. Juste ça! Hey, il se lève. Puis là, tu te réjouis, ton cœur est plein de joie. Vrai? Comme ça, Dieu est. Dieu est parfait, mais il n'est pas perfectionniste. Il se réjouit du petit bout que tu fais de plus que tu ne faisais pas hier. Amen. C'est ça la grâce, bien-aimé. C'est ça, la grâce. On se réjouit du petit bout que tu fais de plus. C'est ça, Dieu. Il est suffisant lui-même. Il est plein de joie et de bonheur en lui-même. Il a cette capacité surnaturelle de se réjouir en lui-même et se réjouit lorsqu'un de ses enfants fait un petit bout de plus. Ça, c'est notre Dieu. C'est vraiment différent de la religion. Le poids de la religion, des règlements, des règles, des jamais assez bons. On n'en veut pas de ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça, la grâce. On veut vivre dans la grâce. Et c'est cette grâce-là qui nous inspire à faire un autre pas de plus. Réjouir notre Papa du ciel. Le bénir. Par notre façon de nous conduire. Malgré leur manque de connaissances, malgré leurs doutes, malgré leur caractère impulsif, agressif, Jésus dit, allez-y les gars, allez-y, c'est correct. Vous allez faire des erreurs. Mais je suis là, je suis avec vous autres. C'est certains qui ont fait des erreurs. Je suis avec vous autres. On va vous aider. C'est des disciples humains, imparfaits, qui chicanaient pour savoir qui était pour être le plus grand. Jaloux les uns des autres. Envieux, orgueilleux, manquaient de foi, plein de doutes, qui doutaient. Connaissaient pas grand-chose de vérité spirituelle. Et Dieu dit, c'est correct, les gars, allez-y. Maintenant, comment tu réussis à prendre une gang de personnes comme ça, envieuses, orgueilleuses, jaloux, impulsif, ne connaît pas grand-chose. Qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là pour qu'un jour puissent transformer le monde? Qu'est-ce que tu fais? T'enseignes. Jésus a passé du temps avec eux autres, il les enseignait, puis il avait cette patience de revenir, enseignait. D'ailleurs, même après la résurrection, puis après qu'ils ont douté, vous savez ce que Jésus a fait? Après avoir passé 3 ans et quelques à les enseigner, vous savez ce que Jésus a fait après la résurrection? Et c'était ça que ses disciples ont passé un autre 40 jours à les enseigner. Et je pense que la clé est ceci, c'est qu'à mesure que tu enseignes, ce n'est pas un bourrage de crâne. C'est que tranquillement, je pense que c'est ça l'idée de former des disciples, c'est que tranquillement, l'enseignement qu'on donne, tranquillement, s'intègre et font partie, tranquillement, à mesure qu'on te répète la parole de Dieu, tu les intègres et ça fait partie de ta vie, ça devient des principes et ça forge, ça forme ton caractère. Vois-tu? Et c'est ça que Dieu vise. C'est ça que Dieu regarde ton cœur. Puis regarde qu'est-ce que tu fais avec l'enseignement. Et Dieu répète, et c'est pour ça qu'on répète et on répète et on répète la parole de Dieu. Des fois, vous allez pouvoir venir ici, puis vous allez trouver, ah, mais ça, je connais déjà ça dans le passage. Laisse-moi dire une chose. Je sais que tu connais ça. C'est correct. Mais tu as besoin d'entendre encore. J'ai besoin d'entendre encore. Et parce que, tranquillement, cette vérité auquel on est exposé s'intègre dans mes convictions. Ça rentre dans mon caractère, ça forge mon caractère. Et tranquillement, à mesure que je l'entends, que je l'insère dans ma vie, que j'ai cette attitude enseignable, Dieu insère ça dans ma propre vie. C'est ça, former des disciples. Jésus leur a enseigné, et Jésus était un modèle pour eux autres. Il dit, voici comment je vais vous conduire. Et qu'est-ce que ça a fait? Si la 649 ne change pas le monde, laisse-moi te dire une affaire, l'Évangile change le monde. Parce qu'on voit les mêmes envieux, jaloux, impulsifs, problème de caractère, problème de foi, doutait, tout ça, les mêmes se retrouvent dans le livre des Actes, en train de prêcher la parole de Dieu. Et voici la réaction de la foule qui dit ceci. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. La foule furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Pierre, t'es un pêcheur. T'es pas un grand érudit. Mais ce qui me fascine, si on vient au chapitre 10, c'est qu'en dépit, qu'à ce point-ci, qu'il manque de toutes ces choses-là, Jésus-Christ les envoie. Parce qu'il y a une bonne leçon qu'on a besoin d'apprendre. Jésus n'attend pas que l'on soit parfait avant de se servir de nous pour être ses ambassadeurs pour aller communiquer l'Évangile. Tel que tu es, avec le peu de connaissances que tu as, tu peux partager aux autres la grâce qui t'a été faite. Ça, tu peux le faire. Avec timidité, avec humilité, on comprend ça. Tu n'auras pas toutes les réponses. On comprend ça. Tu n'auras peut-être pas tous les bons motifs. Tu n'auras peut-être pas... Mais encore, regarde les disciples. Et Jésus veut servir de toi pour le faire. Offre cette grâce aux autres. As-tu reçu la grâce de Dieu? C'est ça le critère. As-tu bénéficié de la grâce de Dieu? Bien, Dieu, maintenant, veut que tu l'offres, que tu offres cette grâce aux autres. Et Dieu s'occupe du reste. Regarde le verset 1, on voit que Jésus-Christ les a équipés. Il les a équipés pour cette mission-là, leur donner le pouvoir de guérir, etc., chasser les démons, faire la résurrection, tout ça. Et certainement, j'aimerais bien avoir le pouvoir de ressusciter les morts, le pouvoir de guérir, tout ça. Et certainement, il y a ces dons de miracles qui étaient importants à l'époque, parce que, comme on voit dans les Écritures, les Saintes Écritures ont été écrites dans un intervalle de temps de 1600 ans. Mais il y a juste l'équivalent de 100 ans de gros miracles et de périodes de miracles tout à fait extraordinaires. Et à chaque fois, c'est une période de grande révélation. Et là, le Nouveau Testament va s'écrire, etc. Et ça, c'est important pour eux. Mais néanmoins, même si on n'a peut-être pas tous ces dons miraculeux de faire toutes ces choses, on a la puissance du Saint-Esprit avec nous autres qui convainc les cœurs de se tourner vers Christ. Alors, c'est vrai? La Bible dit, la parole de Dieu ne reviendra pas sans avoir eu effet. Elle va faire son travail, elle va faire son œuvre, et on a la même puissance parce qu'on a la parole de Dieu. Maintenant, la parole de Dieu est complète, on l'a avec nous, on l'a dans nos mains. Et je ne suis pas en train de suggérer que Dieu ne répondrait pas à une prière si on demande que Dieu guérisse quelqu'un. Oui, je crois ça. Je crois que Dieu peut guérir quelqu'un par la prière. Certainement, gloire à Dieu que ça arrive. Mais nous avons quand même la puissance, la parole de Dieu, la puissance du Saint-Esprit avec nous. Et c'est beau de voir ça. Ça change les vies. Justement, vendredi soir, au Festival du film... J'ai parlé à Éric Hébert, celui qui a commencé tout ça, hein, le Festival du film, c'est bien. Et je parlais avec lui, puis il me parlait d'une église à Chambly, là, un gars qui a commencé une église, je pense, avec les gars de la rue. Ça a l'air qu'il y a des gens de la rue à Chambly, ont des problèmes avec ça, puis tout ça. Puis le gars, le jeune, a voulu partir une église ciblée, ces gens-là de la rue. Eh bien, ça a l'air qu'il y a 30 jeunes dans l'église, et ça a l'air qu'il y en a 28 qui viennent d'accepter le Seigneur dans la dernière année. Et des gars de la rue, là, des gens de la rue, des filles et des gars, là, problèmes de drogue et tout ça, puis les 28, c'est Éric qui me racontait ça, les 28 jeunes n'ont pas plus qu'un an dans le Seigneur. Est-ce que la parole de Dieu est puissante? Est-ce qu'elle peut changer des vies? Et, amen, hein? Oui, certainement. Alors, regardez bien ce que Jésus va faire au chapitre 10. Premièrement, chapitre 9 termine sur la prière. Il dit « Priez, après ça, levez-vous, puis après ça, parlez. » Et qu'est-ce que Jésus s'attend de moi? C'est que je prie, que je me lève, puis que je parle. C'est ça que Jésus s'attend de moi. Vous savez, Martin Luther était rendu convaincu que dans l'Église catholique, il dit « Écoute, il y a une grosse erreur, là. » Et il était convaincu que la justification, c'était uniquement par la foi. Et sa conviction du salut par la foi reposait sur la découverte qu'il avait faite des Écritures saintes. Puis il disait, écoute, il avait un grand ami. Et il a partagé ça, son ami c'était un moine. Et puis il dit, il faut que j'aille partager ça, il faut que j'aille lutter, je vais aller mener le combat, je vais aller prêcher la parole de Dieu à toutes les cette autorité religieuse au sein de l'Église catholique. Son ami qui était moine, son ami a dit, écoute, moi je suis aussi convaincu que toi que c'est la chose qu'il faut faire. Alors je vais aller dans ma chambre de prière, puis pendant que tu vas aller mener le combat, je vais aller prier que Dieu puisse t'aider. Alors effectivement, Martin Luther a commencé à lutter ce combat-là, puis c'était féroce, il était tellement rejeté, il était méprisé, les gens n'étaient pas ouverts, et c'était très difficile. Puis à un moment donné, il est retourné voir son ami qui priait pour lui, puis il donnait rapport de sa mission et de son combat, puis son ami a dit, écoute, je vais redoubler de prière, je vais retourner dans mon lieu solitaire, seul, puis je vais vraiment prier pour toi, que Dieu puisse t'aider, t'accompagner là-dedans. Alors effectivement, là, Martin Luther est retourné son bord, puis il est allé prêcher, puis il est allé là-dedans, confronter les autorités, puis ça, puis c'était épouvantable, c'était tellement difficile. Là, à un moment donné, son ami est en train de prier, puis d'un coup, il a fait un rêve, il a commencé à dormir, il s'est couché, puis là, il a fait un rêve, et dans le rêve, il a vu un grand champ, un immense champ. Ça faisait quasiment comme la terre entière, là. grand champ. Puis il regardait comme il faut, il était toujours dans son rêve, là. Il regarde dans le champ, puis il y avait juste un bonhomme qui essayait de moissonner tout le champ. Puis il regarde dans le champ comme ça, puis il essayait de s'approcher pour voir le visage, puis mener l'individu, cette personne qui était seule à prendre toute la moisson, se retournait de bord, puis c'était son ami, Martin Luther. Et il avait compris que le Seigneur t'envoyait un message, puis il dit, là, la prière, c'est correct, mais tu ne peux pas juste prier. Et à la fin du rêve, il s'est levé, puis il est parti à courir, il est allé voir Martin Luther, puis il dit, écoute, j'ai fait une erreur, je vais quitter mon lieu solitaire, puis je m'en viens mener le grand combat avec toi. On ne peut pas juste prier, frères et sœurs, d'accord? Oui, on prie, on se lève et on parle. Pourquoi? Parce que les gens sont perdus sans Christ. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu, et on veut offrir cette grâce aux autres, car le royaume de Dieu est proche, et c'est exactement ce que Jésus va dire dans les suites des versets. J'aimerais vous lire ces versets-là. « Tels sont les 12, verset 5, que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. » Et c'est ça. Pourquoi on veut donner aux autres cette bénédiction qu'on a reçue? Parce que les gens sont perdus, on est les ambassadeurs, et aussi le royaume de Dieu est proche. Et on veut prier, se lever et parler. Amen.